France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Écrire ses mémoires de guerre à seulement 28 ans, ce n'est pas fréquent. André Hébert rentre de Syrie après avoir combattu pendant 15 mois contre l'organisation État islamique. Bonjour André Hébert.
Bonjour.
Je précise que c'est votre nom d'auteur, c'est un pseudonyme. Vous ne tenez pas à donner votre vrai nom et vous racontez donc votre histoire dans un livre qui s'intitule « Jusqu'à Raqqa avec les Kurdes contre Daesh ». Parce que ce sont les Kurdes que vous avez rejoints en Syrie pour combattre Daesh. Vous vous présentez d'ailleurs comme un activiste révolutionnaire internationaliste marxiste soutenant la cause kurde. Et c'est important, je le précise bien, c'est important dans votre démarche parce que vous n'êtes pas simplement parti combattre Daesh, vous êtes parti aussi pour soutenir les Kurdes. Les Kurdes qui, il y a quelques jours, ont annoncé la défaite de l'organisation État islamique en Syrie. Les djihadistes de Daesh ont perdu leur dernier réduit, un Baghouz. Vous avez pu appeler vos camarades sur place, vous avez encore des contacts avec eux?
Oui, j'ai quelques contacts avec certains d'entre eux. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est à la fois une fierté, celle d'avoir détruit le califat, pas l'organisation de l'État islamique, mais le califat, toute leur base territoriale. Ça a été une longue lutte. Il y a un bilan qui a été communiqué par les forces démocratiques syriennes. Il y a eu 12 000 morts en tout dans ce combat contre Daesh, qui a été connu ici lors de la bataille de Kobané en 2014. Donc il y a ce sentiment, ce soulagement, ce sentiment de fierté, mais il y a également une volonté de faire comprendre que la lutte contre le djihadisme et la lutte des Kurdes ne s'arrête pas à cette victoire à Baghouz et ne s'arrête pas par la chute du califat.
Oui, et les Kurdes aujourd'hui sont loin d'être sereins, pris en étau entre le régime de Bachar el-Assad et les Turcs. Du coup, est-ce que vous avez envie d'y retourner ou vous considérez que vous avez fini votre travail, votre mission, comme vous dites ?
Je sais pas ce que je ferai à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il faut pas qu'on considère que finalement il y aurait plus à soutenir les Kurdes puisque le califat a été détruit. Il y a, comme vous l'avez dit, la menace d'un côté du régime de Bachar al-Assad, de l'autre de la Turquie qui a soutenu l'État islamique depuis de longues années et qui occupe aujourd'hui une partie du Kurdistan syrien, le canton d'Afrin, dans lequel il recrée une sorte de califat bis, soutenu par l'OTAN. Donc la lutte ne s'arrête pas là. Il en va à la fois de notre honneur de soutenir les Kurdes qui nous ont rendu un grand service en détruisant le califat et en prenant sa capitale, Raqqa. Mais il en va aussi finalement de l'intérêt de l'humanité tout entière que les Kurdes puissent continuer à développer leur modèle qui est un modèle démocratique, socialiste et féministe.
On l'entend déjà et on le voit encore plus en lisant votre livre. Vous avez une démarche très construite, très militante. Vous aviez besoin de vous battre pour vos idées ?
Ma principale motivation, c'était de soutenir cette révolution, la révolution du Kurdistan, parce que les principales valeurs qu'elle soutient sont aussi les miennes. Il se trouve que ça passait dans le contexte et à la date à laquelle j'y suis allé, la première et la deuxième fois, en 2015.
Première fois, c'est 2015.
Oui, ça passait par la guerre, puisque tous les bienfaits de cette révolution, il y avait une condition à ce qu'il soit pérenne, c'est que les nombreux ennemis du Kurdistan soient mis en échec pour que ce modèle puisse se développer.
Vous faisiez quoi en France avant de partir à l'époque ? Vous aviez 24 ans ?
J'étais étudiant et je suis parti à la fin de mes études.
Et par quels moyens vous êtes arrivé en Syrie ? Il n'y a pas de vol direct, on n'y va pas comme ça du jour au lendemain ?
Non, on arrive par la ville de Souleymaniye, qui se trouve au Kurdistan irakien. Et ensuite, il y a un trajet en voiture jusqu'au Kurdistan syrien.
Mais comment vous avez réussi cette démarche ? Vous qui ne parliez pas, d'ailleurs quand vous êtes arrivé, vous dites que ça a été compliqué, je ne parlais pas un mot de kurde.
Oui, mais j'étais pas le seul. Il y a eu au minimum 700 volontaires occidentaux venus du monde entier qui se sont rendus au Kurdistan syrien pour rejoindre les rangs du YPG depuis 2014. Au départ, il y a la barrière de la langue, mais quand on fait nos 3 semaines d'entraînement militaire, l'instructeur parle anglais et on a aussi des cours de langue pour nous apprendre la base de la langue kurde. Et ensuite, ça vient petit à petit par la pratique.
Et on vous apprend aussi à manier une arme, parce que vous n'aviez jamais eu une arme dans vos mains avant de partir. Et après, quel a été votre rôle exactement pendant ces 15 mois, donc en deux fois, 15 mois de combat ?
J'ai été engagé dans différents types d'unités, que ce soit des unités composées uniquement d'occidentaux, des unités composées uniquement de Kurdes, d'Arabes aussi, quand j'étais à Raqqa. Et ensuite, j'ai vécu le quotidien, qui est le quotidien des combattants là-bas, avec des périodes pendant lesquelles j'étais engagé au front, d'autres où j'étais à l'arrière.
Oui, vous dites même, parfois on s'ennuie, hein, les journées sont longues, on regarde un peu la télé, on discute, mais on s'ennuie un peu. Après, vous nous racontez aussi vos conditions de vie, qui sont bien évidemment épouvantables, hein, les bombardements, le froid, la mort, le manque d'hygiène, les maladies. Et ce que j'aime beaucoup, et ce qui est très intéressant, je trouve, dans votre livre, c'est que vous ne cachez pas vos doutes, vos angoisses, la tentation de rentrer en France, parfois. Vous n'êtes pas parti en va-t-en-guerre, bourré d'adrénaline, quoi.
Non, en écrivant ce livre, j'ai essayé d'être honnête, parce que je pense que ce soit tant sur ce que font les Kurdes, sur toute la dimension politique de cette démarche, que sur le quotidien qui a été le nôtre. Je pense que la vérité suffit, et j'ai voulu aussi effectivement parler de mes doutes et effectivement de la tentation parfois de renoncer, mais ce qui m'a poussé à me dépasser comme beaucoup, c'était cette volonté d'être utile et la conscience que je faisais là quelque chose de très important, quelque chose qui allait rester.
Oui, pas d'état d'âme, hein. Vous écrivez, de toute façon, il n'est pas possible ni souhaitable de négocier avec Daesh. Le pacifisme est un luxe que les Syriens ne peuvent pas se payer.
Oui. Je pense effectivement que dans un tel contexte, quand j'ai vu notamment certains rapports d'Amnesty International qui critiquaient la façon dont les forces démocratiques syriennes ont mené cette guerre,
leur reprochait d'avoir tué des civils notamment.
Notamment, et ce que j'explique de mon expérience, c'est que malheureusement, les combattants de l'État islamique utilisant systématiquement des boucliers humains, parfois les membres de leur propre famille, il était inévitable que des civils meurent dans ce conflit. Ensuite, moi, ce qui m'a profondément marqué au sujet des Kurdes, c'est leur façon humaine de mener cette guerre, avec le souci constant de préserver des vies humaines, que ce soit celles de nos camarades ou celle des civils.
Vous avez participé à l'une des pires batailles, hein, la bataille de Raqqa. Vous racontez le bruit des bombes, le bruit du canon automatique notamment, hein, ce qui est même pire que tout. Aujourd'hui, vous êtes rentré, vous avez toujours ces bruits en tête. Psychologiquement, comment allez-vous ?
Non, psychologiquement, je vais bien. C'est sûr que la bataille de Raqqa était difficile, mais je dirais pas que c'était la pire bataille. La bataille de Kobané, à l'époque où les Kurdes avaient à combattre l'État islamique sans l'appui de la coalition, était bien plus dure. La bataille d'Afrin contre les Turcs a été aussi bien plus dure que ce que j'ai vécu. Il y a d'ailleurs un certain nombre de volontaires étrangers qui ont participé à cette bataille d'Afrin, notamment Olivier Leclinche, qui était un indépendantiste breton et un anarchiste, qui était un de mes camarades. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont vécu, eux, était plus difficile.
Aujourd'hui, vous êtes rentré en France, on l'a dit, vous avez fait aussi un aller-retour en France en 2016. Vous étiez surveillé à l'époque, vous êtes toujours surveillé aujourd'hui par le renseignement ?
Aujourd'hui, je sais pas, mais j'ai été convoqué, donc la procédure normale quand je suis rentré la première fois en 2016.
C'est un débrief à la DGSI ?
À la DGSI, oui, dans leur siège à Levallois. Tout s'était bien passé et quand j'ai voulu retourner sur place à la fin de l'année 2016, deux jours avant que je prenne l'avion, il y a des policiers qui sont sortis de nulle part, qui sont venus chez moi pour me prendre mon passeport et ma carte d'identité. Et ensuite, les justifications du ministère de l'Intérieur étaient complètement, je veux dire, incroyables. On me reprochait des liens avec l'émanation d'une organisation terroriste.
Et finalement, c'est la justice qui va vous permettre de partir.
Oui, c'est le tribunal administratif qui a considéré que cette décision n'était absolument pas fondée et qu'il me fallait me rendre mon passeport. Et je suis ainsi directement reparti pour participer à la bataille de Raqqa.
Jusqu'à Raqqa avec les Kurdes contre Daesh, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Belles Lettres. Merci beaucoup André Baird d'être venu ce matin sur France Inter.